Bienvenue dans Sans Accro, la nouvelle émission sur les dépendances et les addictions, avec Alexandre sur BXFM.
Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce troisième opus de Sans Accro, nouvelle émission sur les ondes de BXFM, dans laquelle on parle sans tabou des addictions et dépendances sous toutes leurs formes. Café, drogue, alcool, jeux, médicaments, sexe, travail et tant d'autres auront toute leur place ici. 3, 2, 1, c'est parti.
Des questions sur vos addictions ou simplement l'envie de témoigner? Laissez un petit message sur la page Facebook Alexandre B. Coaching.
Cette semaine, on s'intéresse à une addiction ou une dépendance, on verra bien, qui touche une grande partie de la population, une très grande même, l'addiction aux écrans. Alors j'ai à mes côtés deux acteurs du métier qui œuvrent pour une même cause et pourtant qui ont des profils diamétralement opposés. L'un est médecin psychiatre, l'autre créateur d'une app dont on parlera un petit peu plus tard, mais les deux se rejoignent. J'ai le plaisir de vous présenter mes invités. À ma droite, Sébastien Haas. Bonjour monsieur Haas.
Bonjour monsieur Payet.
Soyez le bienvenu. Je vais dresser votre profil. Vous êtes un homme spécialisé en business development. Vous avez décidé de mettre vos compétences en gestion de projet pour développer un projet qui répond à un enjeu sociétal majeur dans la société actuelle. Donc, en gros, vous êtes fondateur d'une app dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission, qui a pour but, eh bien, éventuellement, d'éloigner la génération Z et plus si affinité de leurs écrans. Est-ce que je me trompe dans cette présentation?
Alors, j'aurais plutôt tendance à spécifier un petit peu plus le terme éloigner en disant responsabiliser, c'est plus juste. L'idée n'étant pas de condamner les téléphones, mais plutôt de les aider à comprendre les usages et d'être plus responsable dans leurs usages.
On y revient tout à l'heure. J'ai à ma gauche Dr Antoine Lagaude, psychiatre spécialisé dans les addictions, qui travaille au centre des addictions Epsilon, entre autres Laramée, Fontroy. Je pense que vous êtes d'une modestie terrible, parce que si on scrute un petit peu votre curriculum vitae, il y a 150 lignes. Voilà, c'est un petit résumé, quoi.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Ben avec plaisir. On est dans une thématique aujourd'hui qui touche presque tout le monde, à part certaines populations dans certains pays qui n'ont pas accès à la 3G ou à des écrans. Et encore, quand on regarde les statistiques actuelles, on se rend compte que l'Afrique fait partie des pays dans lesquels il y a le plus d'utilisation, que ce soit les réseaux sociaux ou les écrans. On va s'attaquer donc à cette thématique aujourd'hui qui, moi, m'intéresse et m'interpelle, qui vous, monsieur Haas, vous intéresse et vous interpelle. D'ailleurs, vous avez une idée pour éventuellement responsabiliser les jeunes. Et vous, docteur Lagaude aussi, vous allez nous apporter un petit peu votre... Je sais que vous n'aimez pas le terme « sachant ». On ne va pas vous demander de nous apporter une science et une précision diabolique, mais on va en tout cas discuter avec vous parce que vous êtes spécialiste dans les addictions et j'imagine que ce genre de profil arrive de plus en plus dans vos centres.
On a souvent des jeunes qui viennent consulter pour des souffrances et en effet, ils utilisent les écrans, le téléphone portable comme une source de réconfort. Alors, c'est souvent les parents qui font les demandes. Et puis, tout l'enjeu en fait, de ces consultations, c'est d'essayer d'expliquer aux jeunes l'effet néfaste des écrans, d'essayer de voir aussi si ça ne témoigne pas de d'autres problèmes comme des problèmes d'anxiété ou des problèmes de dépression et de créer l'alliance pour essayer de trouver des solutions et essayer peut-être de favoriser des activités plus dans le réel.
Oui, c'est vrai que c'est un terme très important. Le réel a tendance à disparaître. Je discutais avec ma cousine hier qui me disait que sa belle-fille parfois atteint des 11-12 heures d'écran par jour et qu'elle est dans une bulle et qu'elle n'est plus du tout en réalité, en phase avec... avec la vie réelle. On y reviendra un petit peu plus tard. Bon, je vais vous parler de quelques chiffres et on rentrera dans le vif du sujet. Alors ça, j'ai piqué sur votre site, hein, monsieur Haas. Vous ne m'en voudrez pas. Et j'ai bien noté aussi, docteur Lagaude, les données que vous nous avez envoyées hier sur les nouvelles données en fait parues sur le site, si je ne m'abuse, de la RTBF. Et donc, on va un petit peu combiner les deux parce qu'au niveau des données, ça part un peu dans tous les sens, mais là, il y a quand même une norme qui reste. Les jeunes passent en moyenne 6 heures par jour sur leur smartphone, soit l'équivalent de 15 ans d'une vie à regarder un écran. 15 ans d'une vie. Ce chiffre, c'est presque une claque dans la tronche qu'on se prend. Les conséquences directes d'une exposition abusive aux écrans peuvent se révéler néfastes pour la santé physique et psychique. Isolement, on en parlait, dépression, suicide, diminution de la qualité du sommeil, tensions et conflits au sein du noyau familial, perte de concentration à l'école, diminution de l'activité physique et obésité. Et plus encore, l'article détaillé sur votre site en anglais vaut la peine d'être lu. Les smartphones, les applications mobiles et plus particulièrement les applications de gaming et des réseaux sociaux sont construites pour maintenir l'attention de l'utilisateur et stimuler la création d'une substance chimique dans le cerveau, la dopamine, lors d'un like, d'un retweet ou d'un comment ou d'une notification. Bon, c'est un petit peu la base, je pense, de cette addiction. Et donc, cette dopamine est à l'origine de l'addiction aux réseaux sociaux. Alors, il y a encore plein de chiffres, on y reviendra un petit peu plus tard. Je pense que dans les chiffres, on y est. Alors, dans ce que je viens de dire...
Alors, globalement, je pense qu'il y a une petite précision à apporter, parce qu'il y a un mélange qu'on fait entre le temps qu'on passe sur les écrans de manière générale. Donc, les écrans, ben, ça regroupe aussi la télévision, ça peut être un ordinateur. Donc, il y a différentes formes, différentes déclinaisons des écrans. Maintenant, clairement, aujourd'hui, le device le plus nomade qui existe chez les jeunes, c'est évidemment le téléphone. Donc, le téléphone est partout, tout le temps, dans la poche, dans le cartable. Donc, c'est un device qui est accessible. Et donc, aujourd'hui, majoritairement, quand on parle du temps d'écran chez les jeunes, c'est essentiellement le temps sur le smartphone.
L'addiction aux écrans, est-ce que ça existe vraiment ?
Alors, l'addiction aux écrans, c'est, on va dire, un phénomène qui est étudié dans les études, par les scientifiques depuis plusieurs années, puisqu'on remarque une augmentation progressive du temps passé devant les écrans. Aujourd'hui, maintenant, les écrans, il y en a partout, au travail, dans notre téléphone, à notre poignet. Et donc, c'est vrai qu'on se demande, mais est-ce que ce temps d'écran qui est augmenté témoigne d'une addiction, comme on peut avoir une addiction à d'autres produits, comme à la cocaïne, comme à l'alcool. Aujourd'hui, on sait que le temps passé devant les écrans peut être lié, en effet, à des systèmes de récompense au niveau de la dopamine. Il y a aussi beaucoup d'applications mobiles maintenant qui sont construites comme ça pour essayer de garder les utilisateurs donc dessus. Mais la question, elle n'est pas forcément claire. Donc, on a des personnes qui viennent nous voir vraiment en souffrance en nous disant, voilà, je souffre du temps passé, j'ai limité donc mes activités donc au quotidien.
Quelles sont leurs souffrances ? Ce sont des souffrances psychiques, psychologiques ?
Alors ça va être le fait de s'isoler, d'avoir moins de relations sociales, le fait aussi de souffrir de certaines interactions sociales via les applications, via par exemple du harcèlement qui se met en place, via un usage compulsif donc du téléphone en permanence, via peut-être un système de manque quand ils ne sont pas devant leur téléphone, quand il n'y a pas de connexion. Et donc c'est vrai que ça peut s'apparenter donc à une addiction. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas de connaissance officielle d'une addiction donc aux écrans. Par contre, on sait qu'il y a des addictions aux jeux en ligne, par exemple, ou des addictions donc aux réseaux sociaux qui peuvent exister. La majorité des gens qui passent beaucoup de temps devant leur écran, heureusement, ne sont pas addicts. Avant d'être addict, on peut parler de mésusage. Donc, c'est un temps important passé devant les écrans. On privilégie donc les activités devant les écrans au lieu donc de socialiser, au lieu de sortir donc avec donc des amis. Et on peut comme ça s'isoler donc de plus en plus. Donc, même si on n'est pas forcément addict, on peut quand même se poser la question s'il n'y a pas un abus ou un mésusage quand on vient privilégier certaines activités d'écran au lieu finalement d'avoir une vie avec donc des interactions donc sociales. Donc, l'impact n'est pas forcément majeur, mais ça peut être suffisamment majeur pour se poser des questions et éventuellement utiliser donc des outils pour contrôler donc son temps d'écran. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais, les applications, elles ont des systèmes de like, elles ont des systèmes de vue, de commentaires, elles ont des systèmes de notification, et donc ça va finalement créer donc via le système donc de la récompense des petits plaisirs, de la dopamine qui est larguée donc dans le cerveau, et tous ces mécanismes sont utilisés par les applications pour rester de plus en plus de temps sur les écrans. C'est pour ça que le soir, on a du mal à aller se coucher, on a du mal à éteindre son téléphone, et malheureusement, ça a une incidence, par exemple, sur la qualité donc du sommeil, sur la fatigue donc des jeunes qui sont aussi moins performants donc dans leur concentration, de leur attention donc au niveau donc du travail. Et on a remarqué parallèlement au temps d'écran qu'il y a une diminution du temps de sommeil chez les jeunes avec un réel retentissement donc sur leur qualité, leur capacité au travail.
Est-ce qu'on peut faire une distinction réelle entre addiction et mésusage? Où se situe la frontière?
Alors, l'addiction aux écrans n'est pas officiellement reconnue. On préfère parler d'usage problématique. Il n'y a pas réellement de frontière, puisqu'en fait, c'est un continuum. Aujourd'hui, on sait que l'addiction aux écrans, en tout cas le mésusage, est lié à des affects, des émotions négatives, une mauvaise estime de soi, une anxiété, une dépression. Ce que la science dit toujours pas, c'est est-ce que finalement, c'est cet usage intensif qui provoque directement donc ces émotions, ou est-ce que c'est finalement un bien-être dégradé qui va pousser la personne à utiliser donc plus l'écran? Et tout ça sont des sujets encore en cours et on n'a pas la réponse. On sait pourtant qu'il y a un lien qui est fait entre les deux.
Quand on parle d'addiction, est-ce qu'on ne parle pas du fait que lorsqu'il y a un sevrage, il y a un manque physique qui se fait ressentir?
Voilà, c'est justement pour ça en fait qu'on ne peut pas étiqueter ça comme une addiction, parce que contrairement à d'autres produits, comme par exemple à l'alcool, on a un sevrage physique qui se produit, alors que là, oui, on peut ressentir un inconfort, mais on n'a pas de signes physiques qui peuvent se produire. Alors, on peut aussi apparenter ça à des addictions comportementales, d'autres addictions comportementales, mais encore une fois, les données ne sont pas assez suffisantes pour réellement parler d'addiction. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Donc, on peut utiliser le terme d'usage problématique.
Je prends mon exemple personnel. Quand je sors du cinéma maintenant, d'une simple séance, parfois à 19h et on en sort à 21h30, un des premiers réflexes, c'est regarder dans son téléphone pour voir ce qui s'est passé en une heure et demie, comme si on avait véritablement le besoin de savoir. Et c'est presque, on parle plus du film qu'on a vu, on regarde son écran tel un zombie dans ses galeries jusque... Enfin, bref, et là, je ne sais plus s'il s'agit d'une forme de dépendance ou s'il s'agit d'un mésusage. J'en suis pas à frapper ma famille, à éviter tout lien social, mais bon, voilà, je pense que je ne dois pas être loin du mésusage. On parlait il y a quelques instants des différentes sortes d'addictions. Bon, il y avait... des différents problèmes d'addiction aux écrans, hein, et on les a comptabilisés. Il y avait le gaming, l'addiction aux écrans, l'addiction à Internet, et on les a abordés. Docteur Lagaute, quelles sont les solutions actuellement sur le marché?
Alors, les solutions face à des personnes qui ont un usage excessif donc des écrans, donc c'est par exemple, alors d'abord quand on se place du côté donc des parents, contrôler l'usage chez un jeune adolescent, c'est assez illusoire. Parce qu'un adolescent, ça vit sa vie, c'est dehors, ça a aussi son téléphone portable. Donc, il existe des applications de contrôle parental, mais vous savez qu'on peut aussi bien les détourner. Les solutions, c'est aussi surtout de la...
Il y a des petits filous qui détournent tout ça, oui. Je suis totalement innocent par rapport à ça.
Vous avez des logiciels de hackage pour pouvoir contrôler tout ça. En fait, le grand mot que j'ai envie de vous dire, c'est surtout faire de la prévention, c'est-à-dire expliquer aux jeunes, quand on est parent, de pouvoir les conscientiser aux risques en fait, de l'usage donc, des écrans, et notamment donc, aux risques des réseaux sociaux, d'avoir une vision du monde normalisée, de souffrir aussi de comparaisons permanentes envers des images qui valorisent... la beauté, qui valorise l'argent facile, qui valorise aussi parfois les défis entre jeunes. Le message clé que j'ai envie de pouvoir vous partager, c'est surtout de faire un travail de prévention avec ces jeunes, peut-être même avant qu'ils aient un téléphone en main. Donc ça peut apparaître des 6 ans, des 9 ans, donc c'est peut-être aussi l'âge où on va les laisser s'autonomiser sur les écrans. C'est de pouvoir les conscientiser aux dangers, en fait, notamment des réseaux sociaux, d'être exposés à des images violentes qu'ils ne vont pas pouvoir contrôler, de pouvoir aussi apprendre ce qu'est une intimité, de savoir que si on partage donc des photos, ça risque de diffuser donc rapidement, et c'est de pouvoir aussi se défendre en cas de problème, et que l'information ne doit pas forcément être partagée à tout le monde. Ensuite, quand on a des jeunes comme ça qui sont longtemps sur leur téléphone, qui ont un décrochage scolaire, qui ne sortent plus, qui ont changé de comportement, qui ne voient plus leurs amis, donc là c'est évidemment de se poser donc des questions sur la souffrance donc du jeune, et de pouvoir consulter un professionnel donc de santé qui pourra faire une évaluation et orienter. Il faut toujours inciter les jeunes à sortir, à voir leurs amis, à faire des activités sportives qui donnent des bonnes hormones au niveau donc du cerveau, à pouvoir aussi exprimer quand il y a un malaise, à pouvoir donc se tourner sur des personnes donc réelles. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux à la base partent d'une bonne intention, c'est de pouvoir socialiser, de pouvoir trouver de l'information, de faire du réseautage, mais maintenant, tels qu'ils sont organisés, on a une information qui est poussée via des algorithmes prédéfinis, et ça apporte une vision du monde qui est complètement donc différente, avec la valorisation donc de valeurs qui malheureusement sont assez individualistes, donc la beauté, la richesse facile, la concurrence, et donc en tout cas, il faut pouvoir discuter en permanence avec les jeunes sur ce qu'ils regardent, le contenu, et les prévenir de possibles dangers.
Monsieur Haas, fondateur de l'application Balenz, quel est le principe de la solution Balenz? On en parlait avant l'émission. Est-ce qu'on peut dire la solution Balenz? Vous préférez l'application Balenz? Qui est une solution?
Alors, on peut dire les deux. Avant tout, c'est une solution, puisque l'idée, c'est vraiment de répondre à une problématique observée sur le marché et qui est vraiment palpable au sein du cocon familial, finalement. Donc, clairement, oui, c'est une solution. Maintenant, elle se matérialise sous la forme d'une application. Donc, on ne s'en cache pas. Ça peut paraître paradoxal, mais finalement, on doit traiter le problème là où il est. Donc, si le problème vient du téléphone, on doit être sur le téléphone. Donc, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée jusqu'à présent et qui s'avère être plutôt plébiscitée par les jeunes, puisqu'on a testé cette application en version prototype auprès d'un certain nombre de bêta-testeurs qui nous l'ont validé tant sur la proposition de valeur, donc la compréhension de l'application, et sur d'autres aspects qui pourraient paraître anodins mais qui ne le sont pas pour cette génération Z, comme on les appelle, par exemple les couleurs, la navigation, enfin toute une série de fonctionnalités qui permettent vraiment de valider qu'il y a une bonne à la fois compréhension mais aussi une performance derrière. Donc ces tests qu'on a pu faire en amont du design de la solution ont révélé qu'on était capable d'atteindre jusqu'à 40% de diminution de temps d'écran. Donc oui, c'est très significatif. Et quand on rapporte ça aux 15 années dont on parlait au début, ça permet à un jeune de pouvoir, entre 5 et 6 ans sur sa vie, faire autre chose que regarder un écran. Donc c'est pas négligeable.
Vous parliez de la génération Z, je rappelle aux auditeurs que c'est la génération qui est comprise entre les jeunes actuellement qui ont entre 16 ans et 24 ans, c'est bien ça?
Oui, alors il n'y a pas vraiment une période bien définie, la génération Z, c'est en tout cas né aux alentours de 2008, et puis après, il n'y a pas une frontière très, très délimitée.
Est-ce qu'on sait pourquoi le contrôle parental a du mal à fonctionner?
Alors, ça c'est très simple, et ça a été une des informations qu'on a pu remonter à travers notre sondage, c'est que déjà c'est très répressif, donc il n'y a pas beaucoup d'enseignement ou de responsabilisation à travers l'approche des applications de contrôle parental. Ça peut être brutal aussi, ça coupe à un moment soit l'internet, soit l'usage de certaines applications, et puis c'est pas infaillible comme solution non plus, on en parlait tout à l'heure. Les ados aujourd'hui sont souvent beaucoup plus renseignés et beaucoup plus malins que ce qu'on veut bien le croire quant à l'usage des technologies, et ils ont vite trouvé les failles du système. Donc clairement, les applications de contrôle parental sont pas... Alors, pour certains, ça fonctionne très bien et on ne les condamne pas du tout. Au contraire, c'est un outil supplémentaire pour pouvoir arriver à maîtriser le temps d'écran des jeunes. Mais derrière tout ça, on a pris un autre angle d'approche, c'est celui de la responsabilisation. On dit, il y a une expression qui résume bien, c'est leur donner les clés de la boutique. C'est tu es un ado, tu es grand maintenant, on va te responsabiliser. Et si tu fais bien les choses, ce sera tant mieux pour toi, parce qu'il y a un mécanisme de récompense au sein de l'application qui va lui permettre de pouvoir gagner et donc matérialiser sa performance de temps de non-écran du coup. Et si tu fais pas les choses bien, c'est pas grave, c'est toi qui en subiras les conséquences.
Voilà, donc on va, et vous allez rappeler un petit peu le principe même de l'application, qui est de récompenser ceux qui y vont le moins.
Alors,
c'est réducteur comme question peut-être, mais...
Non, c'est bien résumé. Maintenant, je nuancerai un petit peu plus ce propos en disant c'est pas ceux qui vont le moins, c'est ceux qui vont le moins souvent dans les moments où c'est le plus dur de ne pas y aller.
Ah oui.
Donc, y a des mécanismes, y a de l'intelligence dans l'application, c'est pas une bête application. Le but, c'est en fait de pouvoir permettre à chaque utilisateur, donc chaque ado, de pouvoir faire des challenges de don écran. Donc, en gros, pendant une certaine durée, ils doivent résister à utiliser leur téléphone, donc ils peuvent pas sortir de l'application. S'ils sortent de l'application, le challenge est simplement abandonné, donc ils ne perçoivent pas les rewards qui sont associés, donc en l'occurrence ce qu'on appelle des diams, donc plus communément des diamants. Et donc chaque utilisateur va pouvoir collecter des diams une fois qu'il a réussi un challenge. Ce challenge peut se faire soit seul, donc un ado peut vivre sa vie à travers l'application Baleine sans pour autant interagir avec ses amis, mais il peut aussi solliciter ses amis et gagnera encore plus de diamants s'il se positionne un petit peu en tant qu'ambassadeur de Baleine. Donc, ces challenges, une fois réussis, permettent de collecter ces diamants. Et ces diamants peuvent être convertis dans un catalogue de rewards auprès de partenaires qui sont sensibles à cette mission sociétale et aux valeurs de Baleine et qui sont disposés, du coup, à proposer des cadeaux, des coupons de réduction, des offres exclusives, etc. Et puis, il y a une particularité dans Baleine qui n'est pas des moindres, puisque ça a été un petit peu un des éléments clés qui a permis à Baleine de vraiment voir une certaine appétence de la part des parents, c'est que les parents peuvent jouer un rôle de motivation additionnelle dans l'application en créant eux-mêmes leurs offres personnalisées au sein du catalogue de leurs enfants. Donc, un parent qui voit d'un très bon œil le fait que ses enfants font des efforts pour optimiser leur temps d'écran à travers l'application et ses fameux challenges, peut créer lui-même ses rewards. Et ces rewards peuvent être de différentes natures. Ça peut être des activités en famille, ça peut être...
Des jeux vidéo.
Oui, par exemple. Clairement, il y a une blacklist, évidemment, d'annonceurs ou d'offres qu'on ne retrouvera pas dans Baleine. Maintenant, chaque parent sait mieux que n'importe qui ce qui touche et ce qui intéresse ses enfants. Et c'est pour ça qu'on a redonné ce rôle dans l'écosystème de Baleine aux parents pour pouvoir créer une motivation additionnelle à travers des rewards qui sont très spécifiques, très personnalisés et donc du coup que l'ado va adorer.
Est-ce que dans ces rewards, il y aura la possibilité pour les adolescents de gagner un peu d'argent en cash ?
Alors, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs une des fonctionnalités que les ados nous ont remontées dans leur motivation à moins utiliser leurs écrans. C'est que, évidemment, on vit dans un monde où tout se monétise, où tout s'échange. Les ados n'en font pas exception. Et parmi les rewards ou les récompenses que les ados voudraient voir, il y a des offres exclusives, il y a des activités alternatives et il y a, bien évidemment, le pocket money. C'est un choix, évidemment, que le parent fait ou ne fait pas. Chacun est libre de pouvoir le faire, mais la fonctionnalité existera.
Aujourd'hui, Monsieur Haas, c'est un grand jour. C'est le lancement de votre campagne de crowdfunding qu'on pourra retrouver sur le site spreads.com. Alors, c'est un grand jour pour vous. C'est une palpitation, un battement de cœur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?
Alors, beaucoup de choses, parce que, bien entendu, lancer une campagne de crowdfunding comme ça, c'est un aboutissement. Alors, c'est aussi le début de l'histoire, puisque forcément, aujourd'hui, à ce stade-ci, on a mené beaucoup d'enquêtes, on a designé la solution, on l'a prototypée, on l'a testée avec un certain nombre de bêta-testeurs. Donc, on a vraiment fait toutes les étapes très méthodologiques pour arriver finalement à la conclusion qu'on a un produit déjà très abouti et très pensé. Maintenant, il faut que ce produit prenne vie. Et c'est là où la plateforme de crowdfunding Spreads rentre en jeu et qui permettra de lever des fonds pour pouvoir développer la solution et la mettre sur le marché.
Donc, est-ce que, comme toute personne qui se lance dans une campagne de crowdfunding, vous allez être rivé sur votre écran toutes les demi-heures pour savoir à quel point ça évolue ou ce n'est pas un stress comme ça ? Est-ce que, je ne vais pas dire est-ce que votre avenir en dépend, mais est-ce qu'il y a une addiction à savoir si quelque part votre idée est bonne ?
Alors
qu'on sait qu'elle est bonne, et c'est vrai, cet objectif, on sait très bien que l'idée de détourner l'attention des jeunes qui sont rivés sur leurs écrans est excellente. Donc je ne mets pas en doute la qualité de votre idée, mais le fait de savoir si effectivement d'autres vont adhérer, parce qu'il s'agit de dépenser de l'argent quelque part.
Oui, alors bon, le principe d'une plateforme de crowdfunding par extension, c'est d'investir dans un projet, donc c'est pas un don. Les gens ne me font pas un don d'argent, l'investissement peut commencer à partir de 500 euros, mais l'actionnaire qui se trouve derrière Spreads, puisque Spreads est un véhicule financier qui permet de financer des projets. Spreads se positionne du coup à travers ses actionnaires comme actionnaire de Balance. Donc ces petits porteurs derrière deviennent actionnaires du projet. Donc clairement à ce niveau-là, c'est un parti pris que chacun peut faire et qui, si chacun y croit dans l'idée, c'est potentiellement un bon investissement. Donc ça, je l'encourage rien que pour cet aspect-là. Maintenant, il y a aussi l'aspect sociétal, l'aspect well-being. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette problématique, elle est universelle. Elle ne concerne pas que les parents en Belgique. C'est une problématique dans le monde entier. Vous faites référence au temps d'écran en Afrique ou en Asie, qui sont vertigineux. Mais clairement aussi, c'est de pouvoir dire, moi, en tant que parent, j'ai envie de voir cette application un jour, se voir positionner et développer sur le marché pour que je puisse l'utiliser en tant que parent et j'espère trouver derrière les résultats escomptés. Donc c'est pour ça que derrière la partie crowdfunding, on a fait toute une série de choses pour garantir qu'on est dans la bonne direction. Et aujourd'hui, tout semble être... tous les voyants sont verts pour dire qu'on prend la bonne direction.
Ce crowdfunding qui aboutira à son terme va vous permettre de lancer l'application d'ici un minimum de 3 mois, c'est ça ?
Alors, la campagne de crowdfunding court jusqu'au 1er décembre. Donc, on clôture la levée de fonds le 1er décembre. Et puis, il nous faut l'équivalent de 2 à 3 mois pour mettre l'application, développer l'application. Et puis, il faudra commercialiser ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon marketer la solution pour que tout un chacun soit au courant de l'existence de l'application. Alors, évidemment, on a pensé à pas mal de choses dans les fonctionnalités de viralité de l'application. Comme je vous l'expliquais, le fait de faire des challenges avec ses amis engendre plus de diamants pour l'utilisateur, donc ça permet à chaque utilisateur de pouvoir faire aussi connaître l'application. Donc à travers le non-écran, on peut créer de la viralité. Donc c'est tout le secret ou la magie un petit peu de l'application, c'est de pouvoir dire, grâce au modèle qui existe sur le marché, cette fameuse dopamine, ces mécanismes de récompense, le fait de vouloir stimuler les jeunes à faire, qui sont conscients de leur temps d'écran, à faire d'autres activités, tout ça se retrouve concentré dans l'application. Et c'est une application qui est designée par le marché, qui n'est pas designée par moi. Moi, je n'ai fait que nourrir une croyance, mais qui a été alimentée par d'autres personnes qui sont vraiment dans cette problématique et qui ont un input ou un feedback important à apporter pour pouvoir justement arriver à cette solution.
J'ai vu que vous étiez bien entouré aussi sur votre site de M. Jean-Marc Goumard, qui va s'occuper un petit peu de l'aspect technique ou je...
Alors tout à fait, donc Jean-Marc n'est plus à présenter pour ceux qui le connaissent, il a quelques actifs à son actif, quelques belles réussites. C'est quelqu'un qui va nous apporter énormément de vision sur la partie technologique, parce qu'au-delà de l'aspect purement développement, il y a aussi de l'intelligence au niveau de l'application, et c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser sans avoir compris les tenants et les aboutissants de la solution dans ses plus grandes profondeurs. Donc il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui ait cette seniorité et cette vision stratégique des choix technologiques qu'on va faire.
Sébastien Haas, vous avez une application entre les mains qui est prometteuse. Vous avez une minute maintenant pour nous dire exactement ce que vous recherchez, autant au niveau du crowdfunding que des annonceurs aussi qui auront toute leur place dans cette application.
Oui, alors donc évidemment, j'encourage tout un chacun à se rendre sur la plateforme de Spreads pour aller prendre conscience du dossier et j'encourage évidemment tout le monde à nous aider à financer le projet, donc ça c'est la première chose. Et puis forcément, derrière cette approche de financement, il y a aussi l'approche Rewards, donc je lance un appel à toutes les marques qui portent ces valeurs, qui portent cette mission sociétale et qui seraient susceptibles de vouloir proposer des Rewards dans notre catalogue pour cette génération Z, donc essentiellement des ados entre 10 et 18 ans et qui seraient susceptibles justement de véhiculer ces belles valeurs autour d'eux et au sein de notre application.
On retrouve bien sûr toutes les informations sur votre site balance.io, B-A-L-N-Z, et le crowdfunding c'est sur le site spreads.com.
Sans accro avec Alexandre, c'est sur BXFM.
Et on clôture cette émission avec vous, docteur Lagaude. On va parler du forum Addiction et Société qui aura lieu les 28 et 29 septembre à Flagey. C'est la deuxième édition. La précédente avait eu lieu en 2018, mais si je ne m'abuse, soit c'est tous les 4 ans, soit il y a eu une petite pandémie qui s'est glissée entre les deux éditions. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ce forum Addiction et Société ?
Alors le forum Addiction et Société, donc, qui aura lieu le 28 et le 29 septembre, place Flagey à Bruxelles. Donc vous l'avez dit, c'est la deuxième édition. C'est l'occasion de réunir plusieurs centaines en fait, donc, d'acteurs donc, de la santé, de la justice, de l'éducation et de l'aide aux personnes pour finalement fédérer donc, les énergies, fédérer nos actions pour essayer de résoudre ce problème sociétal qu'est l'addiction. Alors aujourd'hui, malheureusement, quand on pense à quelqu'un qui a une addiction, on imagine cette personne finalement isolée, on a l'impression de que ça ne nous concerne pas. Il faut quand même savoir que dans la population donc, générale, on a presque une personne sur deux qui a des mécanismes d'addiction, puisque si on compte le tabac, l'alcool, on le parle en ce moment, donc les écrans, le sucre, l'alimentation, les autres produits illégaux, le sport, le travail, on arrive en fait avec des chiffres qui sont très importants. Et ça, malheureusement, on n'est pas conscient de ça. Donc, on est dans une société aussi qui est de plus en plus addictogène. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont concernés. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder une sorte de grand questionnement donc, en commun, d'être plusieurs autour donc, de la table. Et donc, c'est un grand forum où il y aura du divertissement, de la discussion, des conférences pour justement qu'on essaye d'avancer tous ensemble sur cette problématique.
Des conférences, des workshops dans lesquels vous aurez votre place d'ailleurs, hein, Dr Lagaude. On y reviendra tout de suite. À qui s'adresse ce forum addiction ?
Alors, ce forum, ça s'adresse à différents professionnels, les professionnels donc, de la santé, les médecins généralistes qui sont aussi en première ligne, justement, donc des personnes qui souffrent de consommation problématique. Ça s'intéresse au monde de la justice, au monde de l'école, avec aussi donc, les professeurs qui sont là, malheureusement, parfois à détecter donc, des jeunes en souffrance et qui peuvent se sentir en difficulté. Donc, y a, finalement, ça s'intéresse à tout le monde, tout professionnel qui un lien avec ces phénomènes d'addiction.
Alors quand vous dites un lien, ça peut être même un autre public tel que la famille, les parents, les collègues.
Voilà, donc on essaye aussi de laisser une grande place de plus en plus donc, aux personnes qui sont directement confrontées par le problème, donc, que ce soit donc, les patients, les pères aidants, les proches, les familles. Parce qu'ils ont évidemment une énorme place à jouer donc aussi dans les soins. Je pense par exemple aux narcotiques anonymes, aux alcooliques anonymes, qui ont une fonction extrêmement importante et précieuse aussi dans le côté expérientiel donc, du problème. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir inclure tout le monde dans une démarche très globale de prise en charge, de soutien, de réflexion, pour trouver finalement des solutions à ces problèmes.
Et même interpeller et engager les décideurs politiques.
Voilà, donc on sait que la politique a aussi un grand poids dans tout ce qui est prise en charge. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, l'argent sert beaucoup à contrôler. On commence à être dans une logique beaucoup plus de prévention. On parle de dépénalisation, notamment par exemple au niveau du cannabis, donc dans plusieurs pays. Ça risque de venir en Belgique. Donc l'idée, c'est pas de dire est-ce qu'une addiction est bonne ou mauvaise, puisque finalement on est nombreux à avoir ces phénomènes. L'idée, c'est plutôt comment on fait pour faire de la prévention, pour éviter donc au maximum le retard, donc l'avancée en âge, donc des premières consommations. Donc, c'est vraiment un débat qu'il faut avoir. La répression, le contrôle, on ne sait, ça ne marche pas beaucoup. Après, c'est aussi sensibiliser le public pour leur expliquer, leur dire, voilà, la méthode de la coercition ne fonctionne pas comme on l'aimerait et il faudrait changer de point de vue et de regard sur l'addiction.
À quel genre de conférence est-ce qu'on aura droit lors de ces deux journées qui feront partie, d'ailleurs, si je ne m'abuse, de la semaine des addictions, donc contre les addictions, hein, la semaine drogue, dépendance et société, voilà.
Alors, c'est toute une semaine qui est organisée donc, par différentes associations au niveau belgique et aussi au niveau donc, européen. Et donc, ce forum qui se tient sur les deux jours, donc le 28 et le 29, va proposer en fait, aux participants différents événements. Donc, il y aura des plénières avec des invités donc, de marque qui vont nous exposer les dernières avancées, par exemple scientifiques, ou les derniers résultats donc, d'études, ou encore les dernières pratiques en termes donc de soins. Et puis vous avez aussi des workshops où finalement tous les participants seront amenés à trouver des solutions en commun sur, sur les problématiques. Vous aurez aussi donc des ateliers pratiques pour que les soignants puissent se former à diverses pratiques de soins ou de discussion, de prise en charge donc, des personnes qui ont ces problématiques. Donc, on essaye vraiment d'être très large, de rendre le public très actif pour vraiment que chacun sorte donc, de cette expérience avec des clés supplémentaires, une vision donc, différente et pour que ça profite à tout le monde.
Oui, avec des conférences aussi importantes et intéressantes que celle-ci, adolescence, un moment charnière. Trois petits points, ce qui concerne aussi notre débat du jour, hein, avec M. Haz qui nous a apporté une des solutions du futur, en tout cas, c'est tout ce que nous espérons pour lui. Docteur Lagaud, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Avec plaisir. Le forum Addiction et Société, 28 et 29 septembre à Flagey. Vous retrouverez toutes les informations sur le site www.addictionetsociete.com. Monsieur Haz, merci d'avoir répondu à notre appel.
Merci à vous de m'avoir invité également.
Et pour tout ce qui concerne l'application Balenz, on se rendra sur votre site balenz.io pour en savoir un petit peu plus. Et surtout pour participer à la campagne de crowdfunding sur le site spreads.com. Tout versement à partir de 500 €, déductibilité fiscale jusqu'à 45%. Et les annonceurs qui voudraient éventuellement participer à cette belle aventure sont également les bienvenus. On croise les doigts, on vous souhaite bonne chance, mais on sent que ça va aller.
Je vous remercie.
Au plaisir. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine émission. J'aurai à mes côtés une demoiselle Carole qui est sortie de l'alcool, du tabac et du cannabis, le tout en même temps. Et c'est un récit de vie qui sera très poignant.
L'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, le café, le jeu et le sexe sont des addictions et dépendances parmi tant d'autres. Vous en êtes sorti ? Venez nous raconter votre parcours. Votre histoire, c'est dans Sans Accro sur BXFM.